Les Canu Info.
Canu Info.
Du mercredi. Bonsoir, vous êtes sur les Canu Info, il est 19h06 et ça va être des infos un petit peu raccourcies, mais on est là quand même.
Eh ben oui, il n'y a pas de raison quand même. Avec quelques brèves, puis toi tu as des titres sous les yeux par exemple ?
Par exemple, oui. Alors les brèves, on ne les annonce pas comme de coutume. Par contre après on parlera du commerce des armes qui se porte plutôt bien dans le monde et puis en France en particulier.
Mais il n'y a que toi qui as des titres sous les yeux. Alors
on parlera ensuite des brevets qui concernent les vaccins. Pas question de les lever, évidemment. Ensuite, on évoquera le Danemark. Si tu peux nous en dire deux mots là tout de suite.
Ah oui, vous découvrirez un peu. Mais disons qu'au Danemark, les sociaux-démocrates sont quand même encore plus à l'extrême droite que la droite. C'est déjà beaucoup à l'extrême droite au Danemark.
Et on finira par un petit agenda, notamment avec une manifestation prévue samedi pour le soutien au Rojava. Et c'est parti pour les brèves.
Alors figurez-vous que dans le bulletin officiel des annonces des marchés publics du 14 mars, on apprend qu'il y a un appel d'offres pour acheter 170 000 balles de LBD. 170 000 balles de LBD, dont avec une petite nouveauté, c'est que ces balles, cette fois-ci, vont pas seulement vous crever un œil, vous péter une mâchoire ou je ne sais quoi, mais ils vont aussi pouvoir vous marquer avec de la peinture, un truc un peu indélébile qui mettra longtemps à disparaître, de manière à ce que quand vous vous serez fait exploser, et ben après, les flics pourront quand même plus facilement vous repérer si vous essayez de filer à l'anglaise, parce que vous auriez encore quand même assez l'usage de vos membres. Les flics pourront vous choper et vous embarquer. 170 000, ça fait quand même un sacré paquet de tirs de LBD prévus pour les temps qui viennent. On peut se dire que très vraisemblablement, Macron ne s'apprête pas à faire des mesures populaires.
Canu Info du mercredi. Alors on parlait la semaine dernière des manifestations au Sénégal qui émergeaient entre autres pour dire la colère face au néocolonialisme français, en prenant par exemple pour cible des supermarchés français ou des entreprises installées. Alors le gouvernement sénégalais a pourtant annoncé hier, hasard du calendrier, puisque c'était quand même en tractation depuis longtemps et depuis plusieurs mois, mais là c'est un peu malvenu, il a annoncé hier un nouvel accord avec EFAG, donc un groupe français, pour la gestion d'une importante autoroute à péage au Sénégal. Alors la signature de l'accord portait sur la gestion de l'autoroute de l'avenir, qui va de Dakar jusqu'à au-delà de l'aéroport international, sur environ 90 km, et qui est du coup l'aboutissement de plusieurs mois de tractations menées sous la pression de groupes politiques. Alors Macky Sall, en annonçant la nouvelle hier, s'est beaucoup vanté de ça. Donc c'est le président sénégalais. Il s'est vanté de la pression qu'ont mis les groupes politiques sur les entreprises françaises pour avoir la plus grosse part du gâteau. Enfin, en tout cas, un pourcentage un tout petit peu plus gros que celui du premier tronçon de cette même autoroute qui était construite depuis 2013. Alors, Parce que quand même, ça a un peu râlé du côté de l'opposition, puisque alors on reproche pas tellement l'accord public-privé et encore moins l'accord avec les Français, mais plutôt le fait que les intérêts sénégalais soient un peu bradés au bénéfice d'une entreprise étrangère. Alors le premier tronçon de cette autoroute, qui est la seule en fait du Sénégal, a été livré en 2013 et elle est l'objet d'une concession de 30 ans qui a été prolongée depuis et qui a été du coup construite sur un partenariat assez critiqué. Notamment parce que les usagers dénoncent eux aussi des tarifs faramineux qui sont en fait les tarifs français d'une autoroute qui sont ici même faramineux. Alors on vous laisse imaginer quand le coût de la vie n'est pas le même. Voilà, de quoi de continuer en fait de mettre en colère les Sénégalais et Sénégalaises qui ont manifesté un peu cette colère la semaine dernière.
Canu Info.
Alors, l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm a publié avant-hier ses dernières statistiques sur les ventes d'armes dans le monde. Le volume global de ventes internationales d'armes, alors finalement, n'a pas beaucoup augmenté ces dernières années, alors qu'il était plutôt en augmentation dans les 20 dernières années, en augmentation un peu constante, mais eux, ils font par tranche de 5 ans. Et la dernière tranche de 5 ans n'a pas beaucoup augmenté par rapport à la tranche précédente. Incroyable, une bonne nouvelle. Enfin, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de très mauvaise nouvelle, hein, c'est tout. Parce que quand même, malgré tout, ça veut dire qu'on reste, on n'a pas augmenté, mais on reste au niveau le plus haut depuis la fin de la guerre froide. C'est pas non plus, c'est-à-dire que c'est une bonne nouvelle toute relative. Dans le détail, l'étude signale une augmentation substantielle des livraisons de 3 des 5 principaux exportateurs d'armes. Donc les États-Unis, bingo. La France, bingo. Et l'Allemagne, bingo. Ça, c'est les pays qui gagnent des marchés. Alors que les Russes et les Chinois, sur les 5, eux, par contre, ils ont un peu perdu du marché. Alors, un petit peu, hein. Bon, en résumé, quoi, les États-Unis, alors eux, c'est énorme. À eux tout seuls, ils font quasiment 40% des exportations d'armes dans le monde, c'est-à-dire 37%. C'est-à-dire qu'ils s'approchent un peu de la moitié, quoi. C'est pas n'importe quoi. Ça, c'est les États-Unis. En même temps, c'est normal, c'est un pays énorme, hyper puissant, tout ça. La Russie, c'est quand même un pays où il y a aussi beaucoup de... Enfin, c'est un grand pays, quoi, en géographie, en taille de la population, tout ça. Eux, ils laissent pas leur part aux chiens. Ils font 20% des exportations mondiales d'armes. Mais alors, les troisièmes sur la liste, qui voilà en troisième sur la liste? Tiens, c'est ce tout petit pays merdique peuplé de nazes. La France, ça s'appelle. Avec 8,2% des ventes internationales d'armes. C'est-à-dire qu'effectivement, ramener à la taille de ce pays, c'est quand même énorme, énorme. La France est le troisième exportateur mondial d'armes.
Et après, donc, on dit qu'il n'y a plus d'industrie française.
Ah non, mais ça, tout à fait. Mais alors, attends, cocorico, comme on dit dans ces cas-là, hein, cocorico. Parce que la France a quand même augmenté, sur cette tranche de 5 ans, ses exportations de 44% par rapport aux 5 ans précédents. Un bel effort. J'ai cherché à avoir un tout petit peu d'autres chiffres pour avoir une idée. Alors, j'ai trouvé des chiffres pour 2011. Donc ça, c'est au début de la tranche précédente, hein, quand on était encore un peu des nazes. C'est-à-dire que là, je n'ai pas trouvé de chiffres plus récents, mais précis sur des histoires de valeur et d'emploi. Mais donc, il faut savoir que ça a augmenté depuis cette période. En 2011, le Conseil des industries de défense française indiquait que le chiffre d'affaires global du secteur du complexe militaro-industriel, comme on l'appelle, s'était élevé à 17,5 milliards d'euros. 35% de la production avait été exportée et ce secteur mobilisait 80 000 emplois directs et 85 000 emplois indirects. Et oui, c'est que quand même c'est pas mal tout ça. Les entreprises s'appellent Nexter, Panhard Défense, Arcus, ça c'est pour le terrestre, EADS, Safran et Dassault pour les avions, Thales et Sagem pour l'électronique, Naval Group pour la mer et MBDA pour la missilerie. C'est les noms de toutes ces vaillantes entreprises qui portent haut les belles couleurs de notre beau pays. Et c'est sûr, c'est toujours bon, ça crée de l'emploi, c'est bon pour le PIB, c'est bon pour l'innovation, le business, ça dynamise l'économie, toutes ces choses-là. Bon, accessoirement, ça fait aussi des fois quelques enfants qui pleurent ici et là sur la planète, quelques autres qui pleureront plus jamais. Bon.
Radio Canu. Canu Info. Du mercredi.
Les pays riches, notamment ceux de l'Union européenne ou les États-Unis, se sont opposés à la levée des brevets sur les vaccins qui étaient demandés par quand même une centaine de pays, dont l'Afrique du Sud et l'Inde, lors d'une réunion de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, mercredi dernier, où la question était quand même bizarrement à l'ordre du jour. Alors, l'Afrique du Sud et l'Inde avaient renouvelé leur offre de déroger aux règles de l'accord de l'OMC sur ces aspects de la propriété intellectuelle liés au commerce. Alors, on appelle ça ADPIC, les aspects de la propriété intellectuelle liés au commerce. Bon, donc c'est les brevets, en fait.
C'est pas un hasard si c'est l'Afrique du Sud et l'Inde, parce que c'est des pays qui ont une sacrée histoire de s'être attaqués aux brevets. C'est les pays qui ont produit des tonnes de génériques et qui ont vraiment mené une bataille juridique internationale pour ça depuis 30 ans, quoi.
Voilà, et puis on va en reparler après. C'est aussi eux qui ont pesé pour que, quand il y a eu le sida, pour que ça soit un petit peu plus libre d'utiliser les droits pour fabriquer les médicaments contre le sida. Où en étais-je ? Ah voilà. c'est une initiative donc, celle dont sont à l'origine l'Afrique du Sud et l'Inde, qui pourrait permettre en fait aux fabricants de génériques ou autres de fabriquer plus de vaccins. Ça, tout le monde l'a bien compris. L'Afrique du Sud a fait valoir que le système actuel des ADPIC ne fonctionnait pas et a souligné l'incapacité de garantir des médicaments vitaux pendant la pandémie du sida, qui avait coûté donc la vie à au moins 11 millions d'Africains. Donc, fort de cette expérience, l'idée était de ne pas la renouveler. Il rappelle aussi qu'il ne s'agit même pas d'une libre circulation gratuite des connaissances et des savoir-faire. Non, pas de menace communiste à l'horizon. Seulement, la levée des droits de propriété intellectuelle qui ne rimerait pas avec la gratuité et que les laboratoires seraient quand même dédommagés. Alors, et de rappeler.
En sachant par ailleurs qu'il n'y a quand même aucune recherche qui a été aussi financée que la recherche sur le Covid au cours de la dernière année, aussi financée par les États pour le coup.
Voilà, et donc par les gens normaux.
C'est ça.
voilà, et de rappeler tout de même que le brevet n'est pas automatique, que les inventeurs du vaccin contre la polio l'ont refusé pour faciliter la diffusion de leur découverte et que ça n'a pas empêché les industriels de gagner leur vie quand même après, en produisant à grande échelle. Donc tout va bien, les bourgeois resteront des bourgeois même s'il n'y a pas de brevet. Alors les pays occidentaux affirment, eux, que la protection des droits de propriété intellectuelle a encouragé la recherche et l'innovation et que la suspension de ces droits n'entraînerait pas du tout une augmentation soudaine de l'offre des vaccins. Alors, et c'est dommage qu'ils ne détaillent pas l'argumentaire parce qu'on aimerait bien comprendre pourquoi. Par ailleurs, les industriels, donc qui fabriquent, eux, les vaccins qui n'ont pas trop intérêt à ce que les brevets soient libres, rappellent que l'OMC prévoit déjà une exemption des brevets dans des cas bien particuliers. Et on parle alors de licence obligatoire. C'est-à-dire qu'au nom de l'intérêt public, un industriel est obligé de fabriquer un produit dont un pays manque cruellement. C'est un procédé qui, on le disait tout à l'heure, qui a été mis en place lors de la crise sanitaire, plutôt du sida, sous la pression de l'Afrique du Sud, et alors que le droit de propriété intellectuelle des produits de santé était déjà contesté à cette époque-là. Mais alors, c'est un dispositif tellement complexe que son application est rarissime et qu'elle n'a été accordée qu'une seule fois, en 2007, lorsque des médicaments contre le sida ont été produits au Canada pour le compte du Rwanda. Alors en fait, alors que finalement fleurissent de partout pétitions, articles de presse, avis de spécialistes, etc., spécialistes dans la santé ou autres, par exemple Médecins Sans Frontières a rédigé en octobre une lettre en ce sens signée par plus de 375 organisations, c'était quand même hautement improbable qu'un tel accord soit pris et pour lever les vaccins, lever les brevets sur les vaccins. C'est à se demander s'il y a vraiment eu discussion à ce sujet mercredi dernier dans la réunion de l'OMC, ou bien si les représentants des pays riches se sont contentés d'un « voyons, voyons, mais vous n'y pensez pas » auprès de leurs confrères des pays pauvres, en leur tapant gentiment l'épaule et en bon garant de la bourgeoisie qu'ils défendent en fait. Un effort quand même d'hypocrisie a été fourni puisque c'est la 8e discussion sur le sujet depuis qu'il a été soulevé pour la première fois en octobre. Le conseil des ADPIC de l'OMC a passé 3 heures à débattre, n'est pas parvenu donc à s'entendre. Bon prince, les pays riches ont accepté de discuter à nouveau la question 2 fois en avril avant la prochaine réunion prévue le 8 et 9 juin, dont on sait déjà l'issue, hein, évidemment, puisque c'est absolument impossible d'avoir cette décision-là qui est prise, puisque les propositions de loi qui sont faites par l'OMC doivent être soutenues par un consensus des 164 membres de l'OMC pour être adoptées, donc en fait à l'unanimité, c'est-à-dire ça n'arrivera jamais. Alors on se souvient peut-être de Macron qui avait déclaré il y a quelques mois qu'il fallait que les vaccins soient, je cite, « un bien public mondial ». C'est pas ce générique là, on va remettre
celui-là. Ou alors on...
Radio Canu. Canu Info. Du mercredi.
Et au Danemark, le Danemark va encore élargir le périmètre d'une loi qui vise à réduire la part des personnes non occidentales dans les quartiers défavorisés. Le pourcentage, hein, c'est bien de ça qu'on parle. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le gouvernement social-démocrate danois. Social-démocrate, on rappelle que l'équivalent en France, c'est le PS. Hein, c'est-à-dire que c'est, dans la bouche de certains commentateurs classiques, on parle toujours de la gauche. Donc, dans ce nouveau projet de loi danois, pour l'instant c'est un projet de loi, le ministre de l'Intérieur veut que la part de la population d'origine non occidentale dans chaque quartier ne dépasse pas 30% d'ici 10 ans. Donc il n'y a pas un quartier où il y a plus, pas un seul quartier dans tout le Danemark, où il y a plus de 30% d'habitants d'origine non occidentale. Alors pareil, je ne sais pas exactement jusqu'où ils font remonter l'origine, mais...
Et puis occidental, en termes d'origine, c'est quand même un peu vague. Hein.
Oui, c'est clair. En sachant qu'en fait, il ne va faire qu'aggraver une loi xénophobe qui existe déjà. Enfin, ou sans doute plutôt raciste si on parle d'occidental, mais enfin, on ne sait pas exactement. Qui était une loi qui avait été adoptée par la droite il y a 3 ans, le gouvernement précédent, et qui disait qu'il ne fallait pas qu'il y ait plus de 50% de mal blanchi dans un quartier. Donc là, maintenant, la gauche, hein, la gauche social-démocrate, dit non, mais même 50%, c'est vraiment bien trop, il ne faut pas qu'il y en ait plus de 30%. Le Danemark est depuis de nombreuses années un des pays d'Europe à la politique d'immigration la plus restrictive. Une ligne poursuivie, qui avait été bien appuyée par le gouvernement de droite, et qui est poursuivie maintenant par la première ministre social-démocrate, Mette Frederiksen. Depuis son arrivée au pouvoir en juin 2019. Selon le ministre social-démocrate, donc toujours, celui qui s'appelle Kaare Dybvad Bek, le ministre de l'Intérieur, une proportion trop importante d'étrangers de pays non occidentaux, c'est-à-dire que si c'est des Français, des Anglais, des Allemands, des bons étrangers, c'est une chose, mais là on parle bien d'étrangers mal blanchis, de non-occidentaux, s'il y a une part trop importante, ça augmente le risque de voir grandir une société parallèle, religieuse et culturelle. Dites donc, ça rappelle vraiment des histoires de séparatisme, comme on entend par ici. Alors, il entend toutefois faire disparaître de la loi le terme polémique de ghetto, parce que, on va y revenir... Pour désigner les quartiers sensibles, ce terme disparaîtrait lors de cette prochaine révision de la législation sur ce qu'ils appellent les sociétés parallèles. Alors voilà, c'est cette même thématique du séparatisme qui est utilisée en France. On est en pleine science-fiction d'un côté, mais en science-fiction, c'est les univers parallèles. Et là, il s'agit des sociétés parallèles. C'est encore vachement pire comme dystopie. Donc jusqu'à présent au Danemark, on qualifie donc légalement, hein, c'est le mot légal, de ghetto tout quartier de plus de 1000 habitants avec une population qui serait à plus de 50% d'origine non occidentale. Alors encore une fois, hein, vous pouvez bien avoir un quartier où il y a 90% de Français, d'Anglais et d'Allemands, c'est pas un problème. Par contre, si c'est des Arabes, des Noirs et des Latinos, là par contre c'est autre chose. Donc voilà, alors attendez, j'en étais à cette définition du ghetto, donc un quartier de plus de 1000 habitants, avec plus de 50% de personnes qui sont d'origine non occidentale, et qui remplissent deux des quatre critères suivants, qui sont plus de 40 personnes qui y vivent et qui n'ont ni travail ni formation, plus de 60% des 39-50 ans qui ne sont pas allés au-delà du collège, une criminalité trois fois plus importante que la moyenne nationale et un revenu brut des habitants inférieur à 55% de la moyenne régionale. Autant dire que ailleurs, on appelle juste ça des quartiers laissés à l'abandon par les pouvoirs publics, sauf que là, du coup, on dit des quartiers, dont les habitants sont responsables de leur pauvreté. Pour l'instant, il y a 14 quartiers danois qui rentrent dans ce cadre, et 25 qui sont considérés comme exposés, ils appellent ça, c'est-à-dire ils sont un peu sur le fil. La liste est actualisée en décembre de chaque année, et figurez-vous que le fait d'établir un classement officiel comme ça de ces quartiers, ça permet d'avoir une législation différenciée aussi. Et du coup, dans ces quartiers, les délits sont sanctionnés deux fois plus sévèrement qu'ailleurs. C'est la loi. La crèche, par ailleurs, est obligatoire pour tous les enfants de plus d'un an, sous peine de suppression des allocations familiales. La loi prévoit, alors la loi, c'est celle qui est en projet, prévoit aussi d'y limiter à 40% d'ici 2030 le nombre de logements sociaux occupés par des familles étrangères. Ce qui, bien sûr, est un peu polémique et va être un peu compliqué, parce que ça va tout simplement dire qu'il va falloir qu'il y ait des gens qui déménagent. Et surtout, comment on va décider, admettons qu'il y ait 55% des logements sociaux, comment on va décider quels seront les 15% qui devront dégager ? Ben ça, pour l'instant, ce n'est pas encore précisé. La proposition de loi, en tout cas, n'est pas encore passée. Ça reste une proposition, elle doit encore être discutée au Parlement. Quoi. Alors, social-démocrate, on a bien dit, ça veut bien dire l'équivalent du Parti Socialiste. Alors, celles et ceux d'entre vous qui votent et qui ont des cartes d'électeurs, d'électrices, est-ce qu'en 2022, vous serez capable d'aller voter je ne sais trop qui, Macron, Le Pen, pour aller faire barrage à Hidalgo ?
Radio Canu 102.2,
la plus rebelle des radios.
Canu Info.
Eh bien, ne jetez surtout pas un coup d'œil à votre montre. Ce Canu Info touche à sa fin. Ça veut dire que ça doit quasiment être 20h. Et avant de terminer...
À quelques 30 minutes près.
C'est ça, une petite trentaine de minutes, une grosse trentaine de minutes près. Avant de terminer, on va quand même faire un petit agenda avec un seul événement. Mais on va le détailler. Hein. Samedi prochain, 15h, place Bellecour, manifestation en soutien au Rojava. Les Kurdes ont besoin de notre solidarité. Je crois que c'est écrit plus que jamais dans l'appel que je vais vous lire. Mais enfin bon, plus que jamais, dites donc.
Il
faudrait vérifier. Voilà. C'est ça, comme toujours. Mais donc, l'appel à la manif nous explique bien que depuis plusieurs semaines, Erdogan, le président de la Turquie, multiplie les agressions militaires en Syrie. Et ça fait déjà quelques années que c'est le cas, mais là il y a une bonne remontée. Et puis, et par contre, ça c'est une nouveauté aussi en Irak. Alors bien sûr, les Kurdes sont les premiers visés, mais le pouvoir turc cherche aussi à éradiquer toute forme de résistance et d'autonomie politique démocratique à ses frontières. Et plus que jamais, les Kurdes, toutes les forces progressistes et révolutionnaires ont besoin de la solidarité internationale. C'était là le plus que jamais. Depuis plusieurs semaines. Erdogan, ils viennent de l'écrire, oh, il est mal foutu cet article. Cet expansionnisme guerrier de la Turquie est à replacer dans le cadre de cette espèce de vision politique de Recep Tayyip Erdogan, qui est d'aller le plus loin possible dans la sorte d'une restauration d'un empire ottoman dont il rêve être le nouveau sultan et qui est vraiment une sorte de grande thématique pour lui dans ses discours et pour son peuple et tout ça, ce truc de revenir à l'empire, quoi. Ça fait donc maintenant plusieurs semaines que le Rojava subit les assauts, alors pour l'instant beaucoup des différents groupes djihadistes que l'appel à la manif qualifie de supplétif de l'armée turque, et parce qu'effectivement il y a un côté où l'armée turque, quand elle a conquis des zones en Syrie, elle protège les groupes djihadistes, mais c'est aussi ces groupes-là qu'elle envoie au front en premier pour aller majoritairement bousiller du kurde. Si les FDS, donc les forces démocratiques syriennes, c'est-à-dire les armées constituées autour des Kurdes, mais qui sont aussi des armées qui prennent en compte et qui offrent une représentation à plusieurs communautés religieuses, ethniques, je ne sais pas comment il faut dire, mais en tout cas ethniques, c'est un peu pourri, mais plusieurs groupes, c'est ça, religieux, linguistiques, ou de plusieurs groupes identitaires. Bon, bref, les FDS. Si elles résistent pour l'instant à ces assauts, l'ensemble du Rojava est sous la menace prochaine d'une intervention directe et massive de l'armée turque, qui d'ores et déjà amasse des troupes et des véhicules à proximité. De son côté, le régime syrien, c'est-à-dire Bachar el-Assad, c'est-à-dire l'ennemi d'Erdogan, mais du coup, le Rojava est un peu pris entre le marteau et l'enclume, entre Erdogan d'un côté et Bachar el-Assad de l'autre. Et Bachar el-Assad, bien sûr, derrière, ça veut aussi dire l'armée russe, si besoin. Donc le régime syrien en profite pour tenter de reprendre l'avantage dans la région, en multipliant les provocations et les affrontements avec les forces kurdes, en particulier dans les villes d'Asaka et de Kamishlo. Et dans le même temps, Daesh ressurgit à Deir ez-Zor et dans les zones d'occupation turques et multiplie les attaques. Autant dire, il ne fait pas bon être au Rojava en ce moment. En Irak, depuis plusieurs semaines maintenant, la Turquie se livre à des bombardements sur la région yézidi de Sinjar. Alors l'Irak, il faut bien capter que c'est, pour le coup, l'Irak a une frontière avec la Syrie, et les deux ont une frontière ensemble avec la Turquie, et que le Rojava est à cheval sur la Syrie et l'Irak. Parallèlement, l'armée turque mène une véritable guerre d'invasion qui vise le Kurdistan irakien, et en menant des opérations aériennes et terrestres contre les bases militaires du PKK dans la ville qui s'appelle Gareh. Et ça, c'est aussi en Irak. L'appel que je viens de lire ici contient aussi des développements sur... que j'ai pas lu pour le coup, sur la vie démocratique en Turquie. Je les ai zappés là, mais on sait que Erdogan est quand même le type même de ces sortes de chefs d'État du XXIe siècle qui, alors d'un côté, se prêtent un peu régulièrement au jeu des élections, selon la constitution de leur pays, même si des fois ils la changent un petit peu. Enfin, ils font des référendums pour la changer et tout ça. Ces élections sont même pas forcément truquées en termes de remplir les urnes. Mais ces chefs d'État bousillent tellement toute possibilité de vie démocratique. Et la Turquie, on sait que c'est par exemple le pays, je crois, qui a le record de journalistes emprisonnés dans le monde. Ils bousillent tellement toute vie démocratique que ces élections sont quand même toujours des blagues, même si ça passe pas par le bourrage d'urne, et que ces chefs d'État sont toujours, de toute façon, des dictateurs, même s'ils sont présidents et ils sont élus démocratiquement, entre guillemets. Donc voilà, on rappelle, samedi, c'est à 15h, c'est Place Bellecour, manifestation de soutien au Rojava.
Et alors, juste avant, c'est à 12h, samedi aussi, à l'espace communal de la Guillotière, il y a un repas partagé, enfin en fait un repas de soutien aux deux occupations de théâtre de Lyon, le TNP de Villeurbanne et l'Opéra de Lyon. Donc c'est à 12h à l'ECG, dans le 7e arrondissement. Et on vous souhaite une bonne soirée.
Ouais. Et puis à mercredi prochain, normalement.
Radio Canu.
C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info de mercredi. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info de mercredi.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2. Et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org.
C'est le Canu Info, c'est le Canu Info.